l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est le docteur Elie Bodbol, médecin strasbourgeois, talmudiste, philosophe, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Éthique juive et transplantation d'organes, ou encore Bioéthique et demandes sociétales. Alors ce qui nous l'amène ici aujourd'hui dans nos studios, c'est son dernier ouvrage, Apocalypse et Renaissance, réflexion juive sur la pandémie du Covid. C'est aux éditions Salomon. Docteur Elie Bodbol, bonjour.
Bonjour.
La pandémie du Covid vous a amené à une réflexion en cette période si particulière sur les apprentissages que l'humain peut tirer de cette douloureuse expérience devant cette inconnue meurtrière à la première vague. Comment a réagi le talmudiste que vous êtes devant cette déferlante? C'était début 2020, il me semble.
D'abord par la tétanisation. Personne n'y était prêt, ni les politiques, ni les médecins, ni les philosophes, ni les tous ceux qui ont fait prédiction, personne ne savait. Donc on était un petit peu tétanisés, on ne savait pas comment réagir. État de panique politique, médical, philosophique, religieux, etc.
Pourtant, ce n'était pas la première pandémie que le monde vivait. On se souviendra de la grippe espagnole au début du siècle. Et pourtant, il y a cette sidération en pensant qu'en 2020, ça ne pouvait plus arriver.
Eh oui, on le pensait, puis nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, c'est Paul Valéry qui le disait au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y a eu une Deuxième Guerre mondiale et peut-être que nous sommes à l'aube d'une Troisième. Et il n'y a pas que des guerres avec des mitrailleuses, il y a aussi des guerres bactériologiques que personne ne souhaite, mais qui peuvent être le produit d'un accident ou d'une mauvaise manipulation.
Vous pensez que ce n'est pas lié au hasard, ce virus qui a envahi comme ça la planète entière, et que c'est lié à une manipulation humaine quelque part?
Le hasard est une métonymie pour dire ce qu'on ignore. Alors, lorsqu'il y aura éclairage sur l'événement, on comprendra que c'est peut-être l'évolution, le réchauffement de la planète ou la sélection des virus ou que sais-je encore, des manipulations politiques venues de Chine et croyant être préservées, etc. Bon, ce n'est pas par hasard.
Vous avez, vous, une intime conviction ?
Pas du tout. Non, je fais confiance à la science et aux historiens pour exhumer ce qui naguère a été couvert.
Alors, votre livre est préfacé par le grand rabbin de Strasbourg, Harold Avraham Weil, qui parle de défis face à cette pandémie. Vous l'avez vécu comme cela également, le défi de l'urgence de trouver déjà peut-être un traitement, tout du moins de sauver le maximum de gens.
Ben oui, après l'état de panique, il fallait gérer au quotidien, et les politiques ont mis du leur, les économistes également, les médecins. Mais enfin, c'était un défi, oui, qu'on a surmonté, bien sûr, en laissant quelques défunts, de chers défunts sur le chemin, ou des malades qui ont encore des séquelles. Bon, mais c'est un traumatisme qu'il faut savoir surmonter, c'est d'où le nom d'Apocalypse et Renaissance de mon ouvrage.
Alors vous faites un lien entre le Talmud et les événements que vous vivez, beaucoup de bioéthique souvent, hein, il y a quelque chose de votre vécu de scientifique, hein, de médecin, vous faites souvent un parallèle ou une croisée des chemins, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire.
Ben, je crois que c'est d'abord une crise sanitaire, donc le médecin est aux premières loges pour affronter cette épidémie. Et puis, le médecin ne peut pas se contenter d'être un technicien. Il est humain, donc il a des malades en face, il faut qu'il les gère sur le plan humain. On sait très bien que ça a été très difficile du fait même du confinement et des malades et même de ceux qui ont disparu, qu'on ne pouvait même pas accompagner jusqu'à leur dernière demeure. Donc, il y a un côté humain. Et puis, avec un peu de recul, il faut prendre précisément cette distance et penser l'événement en termes religieux, en termes politiques, en termes médicaux, santé publique, enfin en termes d'homme. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, c'est de passer du stade du sentiment, de l'état de panique, de l'émotion, de la sidération, à l'état de réflexion pour essayer de penser et ce que cette crise sanitaire a exhumé en termes de questions existentielles, puisque dans mon ouvrage, il ne sera jamais périmé. dans la mesure où les questions que je traite sont des questions éternelles. Hein. Nous reviendrons peut-être dessus, hein, la vie, la joie, etc. Et donc, bien sûr qu'il faut prendre du recul en tant qu'historien et en tant que philosophe et en tant que talmudiste.
Mais vous, en tant qu'auteur, c'est quand même ce qui vous est propre, c'est de pouvoir croiser toutes ces données, toutes ces réflexions également. On le sait, vous êtes philosophe également, et c'est de prendre, on va dire, tous ces faits pour en faire quelque chose de global. Vous êtes, vous, pour une pensée holistique de tout un tas de domaines.
Ben, vous savez très bien que même dans le domaine médical, aujourd'hui, on compartimente beaucoup les choses. Or, l'organisme est un, il est indivisible, ses corps et esprits sont indivisibles et tous les organes communiquent entre eux. Alors, cette segmentation, elle est artificielle. C'est parce qu'on n'a plus les capacités d'envisager l'homme dans sa dimension corporelle et spirituelle entière. Mais en tant que philosophe, on sait très bien, aujourd'hui, les philosophes de la science, les philosophes du cosmos, enfin, de toutes sortes. Donc, on est arrivé à une vision globale de l'humain. Bien que segmentant l'humain, on sait aujourd'hui très bien que les choses sont liées les unes aux autres. Vous avez vu, à partir d'une crise sanitaire et une crise politique, une crise économique, une crise sociale, etc. Donc, tout est lié. Et c'est ça ce qui fait... Le mystère de l'humain.
Alors on va revenir à cette pandémie donc en 2020, cette crise qui nous a contraints à nous retrouver en famille confinée. Elle a été révélatrice de failles invisibles au sein de la famille. Ça, c'est un sujet que vous traitez également, la façon dont chaque individu a vécu ça à l'intérieur de sa famille. Est-ce que ça a révélé également?
Ben, ça a révélé des failles au sein même de la cellule familiale nucléaire. Ce qu'on a considéré comme étant une dimension sacro-sainte de la société, la famille, ben, la famille a montré qu'il y avait des failles, qu'on ne savait pas vivre entre nous. On se croise lors des repas, on se croise à la salle de bain, on se croise, mais on ne sait pas communiquer entre nous, on ne sait pas partager ses soucis. Les écrans portent bien leur nom, ce sont des écrans entre les membres de la famille, chacun, ça a cultivé l'individualisme dans tous les domaines. Donc, le confinement a exhumé cette carence de dialogue et le pouvoir de la parole au sein de la famille.
Il y a eu des prises de conscience, justement, de la part des membres d'une famille pendant ce confinement. Vous avez eu ce sentiment, vous, des choses qui vous ont été rapportées ou que vous avez observées?
Oui, des choses qu'on m'a rapportées, observées, mais aussi les statistiques, puisqu'on a remarqué qu'il y avait des couples qui étaient séparés, qui se sont remis ensemble, et des couples qui étaient soi-disant ensemble, mais qui se sont aperçus qu'ils vivaient côte à côte, et donc le confinement les a définitivement séparés. Donc, il y a nécessairement, on a repensé ce qu'est la relation autrui, et à autrui le plus proche. Or, le plus proche, c'est souvent celui qui est le plus négligé, malheureusement.
Donc ça, c'est vraiment transposé à cette pandémie-là et pas transposable de façon universelle à d'autres pandémies.
Ben, c'est le confinement, c'est pas la pandémie en tant que telle, c'est le confinement. Hein. C'est le confinement de Noé qui lui a fait prendre conscience qu'il était très différent des animaux qu'il avait en charge de nourrir tous les jours, puisque je consacre un chapitre au confinement dans l'Arche de Noé. Vous savez que l'autorisation de consommer les aliments, les animaux en tant que chair animale a été... autorisé à Noé après le confinement dans l'arche, parce que avant on avait élevé les animaux au stade pas d'humain ou au stade d'être pensant, ayant des mœurs, etc. Mais après s'est rendu compte que non, il y avait un fossé abyssal entre l'humain et les animaux, d'où la concession de la consommation de la chair animale.
Il y a également un chapitre sur le croire en période d'épidémie. La foi, elle peut être malmenée également dans ce genre de situation. On n'est pas en situation de guerre, encore que notre président nous a dit que nous étions en guerre. Mais est-ce que la foi est malmenée dans ce genre de cas où il y a des doutes qui s'installent?
Alors, on peut avoir deux opinions qui sont à l'extrême l'une de l'autre. Le fait même que les synagogues étaient fermées, enfin les synagogues, les lieux de culte en général étaient fermés, ça a pu être perçu comme étant le sentiment que Dieu ne veut plus de nous dans ses maisons. Et donc, il y a une sorte d'introspection, de remise en question de ce que nous faisions jusque-là dans les synagogues. Puisque Dieu ne veut plus de nous, c'est que peut-être nous sommes à ses yeux que des pseudo-fidèles, que nous croyons en lui, mais que lui ne croit pas en nous. Donc, il y a une remise en question des croyants qui, dans leur demeure, ont commencé à prier pour leurs malades, ceux qui étaient en réanimation, ceux qui étaient en crise sociale, familiale, etc. Et puis, il y a d'autres qui ont abordé cette période de manière pragmatique en disant « bah, Dieu n'était pas là lors des grandes guerres, bah, il n'est pas là non plus, c'est un accident, il faut faire front. » Et en faisant éviction de la dimension spirituelle.
Finalement, d'un point de vue talmudique, qu'a retenu l'homme de cette épidémie, selon vous, docteur Bodbol ?
Retenir quelque chose de l'épidémie, c'est déjà penser à, non pas à sa cause, parce que nous ne sommes pas là pour déflorer des énigmes, mais pour savoir ce qu'on a à en faire. Hein. Je cite Nietzsche qui dit tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça veut dire tirer le meilleur parti de là, apprendre à dialoguer, à apprendre tout simplement à remplir notre vie. Hein. Souvent, quand il y a un décès, quand il y a un accident, quand il y a quoi que ce soit de désargent, on me dit c'est la vie. Maintenant, il faut savoir dire c'est la mort. C'est quelque chose qui n'est pas plaisant et qu'il faut savoir en tirer le meilleur parti. Hein, plus que de nos maîtres, nous apprenons davantage de nos désillusions et de nos échecs. C'est une épreuve de laquelle il faut penser qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que la parole, pourquoi la kétorette, je parle d'un thème très religieux, très juif, pourquoi la kétorette peut sauver de l'épidémie, je vais consacrer un chapitre, et puis toutes les questions médico-éthiques annexes.
Donc là, vous avez décliné ce livre en 13 chapitres, des cas de conscience, la vaccination anti-Covid et l'éthique juive. Vous avez chaque fois confronté votre regard de médecin et votre regard de talmudiste. Vous avez fait des recherches dans les textes pour confronter et développer surtout ces chapitres-là.
Oui, d'abord, il faut relever le caractère inédit de cette pandémie, puisque nous, notre génération, c'est la première pandémie qu'on connaît donc au niveau mondial. Donc il y avait quelque chose à réfléchir de singulier par rapport à cette pandémie. Mais bien sûr, dans la tradition juive, on va toujours chercher les sources anciennes, bibliques, talmudiques, pour nous inspirer, pour nous donner un peu du grain à moudre. Et donc, dans ces chapitres, aussi bien dans le chapitre 4, conscience qui vivra, qui mourra, la notion d'égalité des vies, la notion de priorité des vies, de hiérarchisation des vies, de l'utilité des vies, des questions qui se sont posées durant la Shoah. Hein, puisque le choix de Sophie, hein, faire le choix entre lequel des deux enfants sacrifier et lequel retenir, c'est une question d'égalité des vies et en même temps de priorité des vies, puis de l'utilité des vies. Durant la Shoah, là aussi, on a dû maintenir en vie certaines personnes qui étaient plus utiles que d'autres. Là aussi, on a vacciné d'abord les professions de santé ou les professions utilitaires, alimentaires, avant les autres. Donc, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on va tomber dans l'utilitarisme de la vie, donc dans l'instrumentalisation de la vie, ou bien même en cas de crise, il faut encore maintenir une certaine égalité? C'est une question éthique, philosophique et religieuse.
J'invite évidemment nos auditeurs à lire ce livre passionnant. Donc, on n'a pas le temps, on avait un petit temps imparti pour parler de cet ouvrage, Apocalypse et Renaissance, réflexion juive sur la pandémie du Covid. Où peut-on se procurer ce livre ?
Ah ben dans toutes les bonnes librairies, chez son auteur et puis aux éditions Salomon.
Eli Bodbol, merci beaucoup.
Merci à vous.